Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Jean-François Thibault, ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. Il évoque le New England Clean Energy Connect, projet de ligne de transport devant acheminer 1200 MW d'électricité du Québec vers la Nouvelle-Angleterre. Si le projet obtient tous les feux verts, la mise en service pourrait commencer en 2022. Mais tout d'abord, Louis Bouchard nous propose sa chronique économique et nous parle de l'affaire qui secoue Wall Street depuis quelques jours. Une communauté de jeunes millénarios a décidé de jouer selon les dures lois de la bourse afin de prendre à leur propre piège certaines grandes firmes de courtage. Le tout se jouait autour des actions de GameStop. Se revendiquant héritier du mouvement de contestation Occupy Wall Street en 2011, serait-il la dernière version de la lutte des petits contre les grands? Louis, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe.
Ça devient passionnant, ça devient chevaleresque, ça devient épique, la bourse à New York.
Ben oui, puis on nous promet même le film à venir.
Alors, non, déjà?
Voyez, oui, déjà, voilà.
on ne sait pas comment ça va se terminer.
Ouais. Mais bon, alors, on va parler de ça. On va essayer de vous expliquer en termes simples de quoi il s'agit, parce qu'il y a beaucoup de protagonistes. Donc, comme à notre habitude, j'ai retenu trois nouvelles à saveur économique la semaine dernière.
Allons-y.
La première, Alstom va effacer le nom Bombardier.
Carrément.
Carrément, oui, c'est ça. Il aurait pu faire Alstom, trait d'union, Bombardier. Mais ils nous disent que Bombardier est encore en affaires, puis ils font des avions. Il y a aussi Bombardier produits récréatifs, donc ça pourrait porter à confusion. Voyez-vous.
Bon. Imaginez si Couche-Tard avait acheté Carrefour, oui. Et si on avait supprimé la marque Carrefour.
Exactement.
Ça aurait été la deuxième révolution française.
Exactement.
Ou la troisième, plutôt.
Mais bon, vendredi dernier, oui, nous a dit que c'était la passation officielle du changement de propriété. Donc, la prise de contrôle de Bombardier Transport va permettre à Alstom de générer des revenus de 19 milliards de dollars US, états-uniens, ce qui demeure quand même loin du chiffre d'affaires du numéro un mondial, qui est le géant chinois CRRC, qui lui vend pour à peu près 32 milliards. Donc, vous voyez. Mais Alstom aura quand même 36 000 employés répartis sur 63 sites à travers le monde.
Bon, et qu'est-ce que le Québec retire dans tout ça?
Petite consolation, la Caisse de dépôt et de placement qui détenait environ le tiers de Bombardier Transport va recevoir 2,5 milliards de dollars. Ils mettent tout ça directement dans des actions d'Alstom et rajoutent une somme de 700 millions d'euros. Donc, ça va devenir le plus important actionnaire avec une participation de 17,5%. Mais bon, ça demeure quand même une perte, puis un autre de nos fleurons qui disparaît. Puis ça, comme vous le disiez, au moment même où la France nous a refusé d'acheter permettre à Couche-Tard d'acheter, par exemple, une entreprise qui a des difficultés, c'est en Carrefour. Donc, on se demande, eux, ils ont le droit de nous acheter des entreprises, mais de l'autre côté, ça ne fonctionne pas, c'est un peu bizarre. Deuxième nouvelle, c'est passé
un peu sous le radar. Pire que bizarre même, oui.
Oui, c'est ça, le constructeur américain General Motors a annoncé jeudi dernier qu'il aspirait à ne plus construire de voitures avec des moteurs thermiques d'ici 2035. Ça comprend les 4x4, les camionnettes. Donc, ils veulent que...
Ça veut dire qu'on serait tout électrique?
Exactement. Donc, ils espèrent n'offrir que des véhicules électriques à cette date-là. Donc, ça vient vite, là, dans 14 ans. La firme se fixe cet objectif-là, puis elle va prendre des mesures pour y parvenir. Ils vont demander aux fournisseurs du secteur automobile de faire de même. Ça va demander aussi la collaboration des gouvernements, mais ça, les gouvernements veulent ça de plus en plus, et les clients le demandent de plus en plus. Donc, General Motors prévoit d'ailleurs que toutes ces voitures et ces autres activités, à partir de 2040, vont être carboneutres, pour ainsi dire. Donc, le constructeur prévoit, dans ce contexte-là, de faire évoluer toute sa gamme de produits vers du véhicule électrique qui émet zéro émission. Que ça soit avec des véhicules à hydrogène ou électriques classiques. Et si jamais ils ne sont pas capables de supprimer des émissions dans certains secteurs, ils vont acheter des crédits carbone
D'accord.
Où ils vont faire. Et pour montrer qu'ils sont sérieux, ils se sont associés avec le Environmental Defense Fund aux États-Unis. C'est un groupe de pression qui a pas mal d'argent aussi, qui traîne en cours les entreprises polluantes. Donc, ça donne
il vaut mieux s'en faire un ami qu'un ennemi.
Oui, exactement. Donc, plus de ça, côté politique, ben, on le sait, le nouveau président Joe Biden, lui, il veut que tout le secteur automobile prenne l'exemple de General Motors aux États-Unis. On sait, Tesla a le vent dans les voiles. Bon, il faut mettre ça en contexte. Aux États-Unis, présentement, le secteur du tout électrique, ça représente 2,6 % du marché, mais on sait que c'est appelé à exploser. Mm-hmm. Et troisième nouvelle...
C'est drôle, on abolit le moteur à explosion, mais ça va exploser malgré tout.
Oui, exactement.
Bravo. Troisième nouvelle, donc.
Troisième nouvelle, vous voyez, on a de la suite dans les idées. Le secteur pétrolier, ça va mal. Pendant la pandémie, on consommait pas. Et on a su dimanche du Wall Street Journal, nous a appris ça, que les dirigeants d'ExxonMobil, la plus grande entreprise pétrolière au monde, si on compte pas l'Arabie Saoudite, là, l'entreprise d'État, mais les deux grands secteurs, les deux grands numéro un et numéro deux du secteur, ExxonMobil et Chevron, ont évoqué l'an dernier la possibilité de fusionner. Oui. Donc, les deux PDG se sont rencontrés au moment où la demande pour le pétrole et le gaz s'effondrait. Et ils savent que, à venir, c'est écrit, là, on parle de tout électrique s'en vient, l'hydrogène s'en vient, donc pour ce milieu-là, ben c'est mieux pour eux probablement de se consolider. Tous les analystes le pensent aussi, parce que ça pourrait peut-être leur permettre de réduire leurs coûts, mais surtout de trouver un autre modèle. Est-ce qu'ils veulent rester dans le pétrole et dans le gaz? Donc, ils ont mis ça sur la glace présentement, mais vous le voyez, il faut réduire notre dépendance aux énergies fossiles, puis donc, même les grandes entreprises pétrolières et gazières y pensent.
Ça fera un gros mariage, ça.
Oui, un gros mariage, exactement.
Uh-huh. Donc, il nous reste à peu près 13 minutes, à peu près, Dominique.
Oui, ça nous amène au sujet de la semaine. On va essayer de vous expliquer ce qui se passe à Wall Street depuis une dizaine de jours. On parle de ça, GameStop. La plupart d'entre nous n'avaient jamais entendu parler de ça. On a l'impression aussi qu'il y a une espèce de guerre de génération ou de classe qui se joue présentement. On va essayer de vous présenter le contexte, les protagonistes, parce qu'il y a plusieurs noms qui viennent de sortir. On va essayer
Mais
de comprendre ce qui se passe.
Louis, c'est quand même intéressant parce que les États-Unis sont divisés entre républicains et démocrates. Là, il y a une division raciale, une division sociale, une division entre le Midwest, le Sud et les côtes. Tout est en état de scission aux États-Unis, on dirait. Et même là aussi.
Oui, on pourrait croire aussi même les millénarios, cette génération montante. Donc, tout d'abord, GameStop, c'est quoi? Et après ça, on va vous expliquer comment on fait de l'argent lorsqu'une action d'une firme est à la baisse. Donc, première des choses, GameStop, c'est une entreprise qui a été fondée en 1991. Elle est spécialisée dans la distribution de jeux vidéo et de matériel électronique. Le siège de la société est situé au Texas, à Grapevine. Avec le temps, il y avait 7 000. Ils ont même eu, à un moment donné, 10 000 filiales de par le monde. Puis là, une présence dans les centres d'achat à une époque avant l'Internet où vous alliez acheter des consoles, vous alliez acheter vos logiciels de jeux, puis tout ça. Évidemment, depuis 10 ans, 15 ans, tout ça, c'est dans le nuage informatique. Donc, le modèle d'affaires de l'entreprise, il est en réorganisation depuis 3-4 ans. D'accord. Ils ont maintenant encore plus de 5 000 points de vente. Et ça, dans le monde entier, là, vous retrouvez ça dans le monde anglophone. Ils sont très présents en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France, en Italie. C'est gros comme truc, ou c'était gros. À Montréal, par exemple, ils ont encore 3 points de vente sous le nom de EB Games. Bon, moi, je ne suis pas dans ce milieu-là, mais les gens qui s'intéressent à la chose, c'est important. En France, c'est connu sous le nom de Micromania.
Ils brassent beaucoup d'argent, j'imagine?
Oui, bien, ils ont encore... Bon, le chiffre d'affaires est à la baisse, mais ils ont encore 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Oui, mais les pertes l'an dernier, c'était 500 millions. Donc, vous le voyez, c'est une entreprise en réorganisation. Si elle avait le temps, elle pourrait peut-être se réorganiser. Autre contexte, par exemple, comment faire de l'argent sur une entreprise dont l'action va tomber en bourse? On pense souvent qu'en bourse, vous allez acheter bas. Supposons que vous achetez une action à 10 $ puis vous espérez dans 5 ans, 10 ans peut-être, la revente à 20. Puis
là, c'est ça le but de la bourse.
Ça le but de la bourse, exactement. Donc, mais il y a aussi un moyen qui est plus compliqué, qui est plus spéculatif, qui n'est pas ouvert à tout le monde habituellement, et ça s'appelle vendre à découvert. En anglais, on appelle ça « to short ». Vous êtes un fonds d'investissement. Vous avez des fonds nécessaires. Alors, vous empruntez à certains d'actionnaires leurs actions pour un temps déterminé à l'avance. Ça, c'est un mois ou deux mois. Habituellement, c'est pas très long.
On emprunte, mais est-ce qu'on paye quelque chose? On dit « on vous rend votre action dans deux mois ».
Dans deux mois, et on va vous payer pour chaque action, peut-être 50 sous par action. Donc, l'actionnaire actuel, il dit « l'entreprise a des difficultés. Il y a quelqu'un qui va emprunter mes actions, puis il veut me payer un petit dividende qui va sortir de sa poche. C'est peut-être intéressant. » Là, donc, vous promettez de leur payer un dédommagement qui est fixé à l'avance, et une fois que vous avez ces actions-là, vous les vendez au prix courant. Donc, par exemple, mettez 40 $ et vous publiez après ça une série d'analyses de votre cru, vos spécialistes qui indiquent pourquoi l'action en question va perdre de sa valeur. Donc, si cette analyse-là est suivie par les autres actionnaires, ben, eux, ils vont vendre à la baisse. Vous rachetez plus bas que vous avez emprunté, et la différence, c'est votre profit, et vous remettez à l'entreprise, un mois ou deux mois plus tard, ses actions, puis ça vous a permis de faire un profit, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que très souvent, ces entreprises-là, à la fin, elles vont faire faillite.
Donc, lesquelles? Celles qui ont emprunté ou celles qui, les emprunteuses?
Non, celles qui sur qui le dévolu de ces firmes d'investissement, ils ont décidé...
Ah oui,
voilà. Donc, ces firmes d'investissement-là, qu'on appelle habituellement des hedge funds en anglais, ça a été fondé habituellement par des individus qui ont fait beaucoup de fric sur ce modèle-là. Donc, et leur modèle, c'est de détruire un peu comme ça ces entreprises-là. Ils ont des noms comme Citron, Melvin, Muddy Waters, Citadel. Est-ce qu'on pense souvent à une meute de loups qui
c'est
surveille?
Sûrement.
Oui. Oui, mais ils trouvent ça très darwinien, vous savez, dans l'environnement.
Ah oui, les plus forts vont manger les plus faibles.
Exactement. Donc, ils se voient, ils se disent, ou ils nous disent en plus que c'est un procédé soi-disant naturel, et en plus, elles font beaucoup d'argent. Donc, revenons à notre histoire. Au cours des derniers mois, il y a certains gros fonds d'investissement qui ont tenté de gagner de l'argent en pariant à la baisse contre l'entreprise GameStop, qui est cotée à la Bourse de New York, et comme on l'a dit, elle ne va pas très bien. Donc, ils espéraient que leurs analyses seraient une sorte de prophétie qui s'auto-réaliserait. Ils ont emprunté les actions qu'elles ne possédaient pas. Elles les ont vendues à prix fort en attendant que le cours baisse pour les racheter à prix bas. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, leur stratégie n'a pas fonctionné.
Pour quelle raison?
L'action de GameStop a augmenté.
Ah, au lieu de baisser, elle a augmenté?
Elle a augmenté. Parce que là, il y a un petit groupe de boursicoteurs, jeunes, qui, eux, ont grandi avec GameStop. Ils ont un attachement un peu, je dirais, irrationnel. Ils ont grandi avec ça. Ils se disent, il ne faut pas qu'elle disparaisse, cette entreprise-là. Puis en plus de ça, il y a des méchants fonds d'investissement qui veulent la détruire. Alors, sur Internet, je dirais, il y a cette communauté de boursicoteurs qui se sont rassemblés sur un forum de discussion qui s'appelait Wall Street Bets. Donc, on essaie d'aller sur Wall Street, puis on va voir ce que ça donne. Et ils ont donné tort à ces grands groupes-là. Ils ont estimé, ces boursicoteurs, qu'il était possible de s'enrichir en pariant sur la hausse du cours. Et ils ont racheté, et ça fait en sorte... Bon, expliquons encore une fois, Wall Street Bets, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une communauté de plusieurs millions d'internautes. Ce sont des boursicoteurs, je dirais, amateurs. Et ils vivent essentiellement sur un forum qui s'appelle Reddit, qui veut dire en anglais « Have you read it? L'avez-vous lu? » Donc, c'est un important site états-unien qui rassemble des millions de communautés différentes. Il y a des sous-Reddit. Les internautes, quand vous allez lire ça là-bas, là, il y a une ironie caustique, il y a un humour parfois douteux. C'est directement, je dirais, un inspiré la culture Internet du début des années 2000. Là.
Donc, c'est, Reddit, c'est pas pour les vieux croutons comme vous et moi, non?
Non, ça? C'est ça, exactement. D'accord. Mais je suis allé voir ce que ça donne, puis je peux vous dire, c'est assez décapant. Donc, oui. Ça a été fondé en 2005. Au début, oui. Ils voulaient faire surtout du contenu de programmation et de la science, mais ils se sont mis à se diversifier. Puis avec le temps, c'est maintenant, il y a plein de contenu public. Si vous faites Reddit et un sujet quelconque, vous allez voir, il y a des forums de discussion. Donc, depuis 2010, c'est en explosion, ce site-là.
Il nous reste 5 minutes, Louis Bouchard. Oui. Avançons un petit peu.
Donc, avançons. Donc, cette communauté de boursicoteurs qui s'appelle Wall Street Bets, ils ont décidé, voilà, on va arrêter ça. Et ils ont décidé de jeter leur dévolu et soutenir, pour ainsi dire, l'entreprise GameStop.
Donc, bah évidemment, quand on est plusieurs milliers de jeunes boursicoteurs millions, avec pas beaucoup d'argent, mais quand on est nombreux, on peut très bien faire un effet de levier contre les méchants fonds d'investissement.
Exactement. Et donc, la plupart de ces gens-là, sur ces boursicoteurs amateurs, ils utilisent pour acheter et vendre leurs actions l'application qui s'appelle Robinhood. Ça nous dit rien, nous, mais c'est un outil qui nous permet d'investir sur les places boursières sans payer de commission. Donc, c'est pour ça que ça... Oui, et imaginez, le modèle d'affaires, il repose sur la vente des informations de ces utilisateurs-là à des fonds d'investissement comme Citadel, par exemple, qui est un des héros, qui, eux, font ce qu'on appelle du trading à haute fréquence. Ils ont toujours quelques millisecondes d'avance sur le marché parce qu'ils savent ce qui s'en vient, parce qu'ils regardent, ils payent très cher. Et donc, il y a des algorithmes automatisés, c'est tout fait par ordinateur, et ils sont tout le temps gagnants. Voilà. Et donc, depuis ce qui se passe depuis une semaine, 10 jours, ces gens-là, ils ont décidé, les boursicoteurs amateurs, ils ont décidé, cette fois-ci, ça passe pas. Ils agissent tous comme un homme, pour ainsi dire. C'est devenu une espèce de bataille des petits contre les grands. David
Louis, pardonnez-moi, est-ce que tout ça est légal de part et d'autre? J'ai l'impression d'avoir une jungle. Il y a quand même une autorité des marchés financiers qui regarde ça, non?
C'est pour ça qu'en fin de semaine, les grands fonds d'investissement qui ont perdu, Citron, par exemple, a perdu presque 4 milliards à cause de ça. Ils plaignaient que... Non, mais ça se peut pas. Ces gens-là, ils ont fait de la collusion pour essayer de nous extorquer. Drôle de voir essayer d'avoir des lames de crocodile pour un grand fonds d'investissement quand même.
C'est dur.
Et donc, ça fait en sorte que ces millénarios-là, on le voit, c'est une première victoire qu'ils ont eue. Bon, il faut dire aussi, quand vous allez voir ce qui s'écrit par eux, on le voit qu'ils ont vécu le crack de 2008 assez durement. On voit leurs parents, ils avaient perdu leur emploi, leur maison, puis comme vous le disiez, ils se considèrent les justes héritiers d'Occupy Wall Street, où vous vous souvenez, le mouvement de contestation de 2011. Je lisais hier les commentaires, puis j'avais l'impression que la révolution se préparait, là. Il allait abattre le système. Et d'ailleurs, les grands propriétaires de ces fonds-là, ils commencent à comprendre que les gens ne les aiment pas beaucoup tout d'un coup.
Ah tiens, c'est nouveau!
Oui, c'est nouveau, justement. Donc, aujourd'hui, ça branle un peu. J'ai regardé avant d'aller en studio, là, le prix de GameStop tombe un peu parce que apparemment le prochain marché que les boursicoteurs veulent attaquer, c'est celui de l'argent. Ils ont regardé,
vous savez. Ça, oui.
Mais il y a plein d'entreprises qui veulent aussi, qui sont dans leur mire d'action. BlackBerry, vous vous souvenez, ces anciens premiers téléphones les Nokia, la chaîne de cinéma AMC. Bon, tout ça, c'est de la spéculation. Mais pour une fois, c'est les petits qui gagnent. Et donc, c'est intéressant. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ces grands groupes-là, ils ont quand même des moyens assez puissants et ils peuvent faire des pressions auprès des politiciens? Donc, on va suivre ça pour vous.
En attendant, parlons concret, parlons crêpes.
Oui, exactement. Aujourd'hui, 2 février, la plupart des gens vont penser c'est le jour de la marmotte. Apparemment, la marmotte nous a dit que l'hiver serait court, mais pour la plupart d'entre nous, le 2 janvier, c'est 40 jours après Noël. On célèbre la chandeleur, la fête des chandelles, qui était une ancienne fête païenne et latine, qui est devenue ensuite une fête religieuse chrétienne qui correspond à la présentation du Christ au Temple, mais surtout, il y a une tradition culinaire. On mange souvent des crêpes à la chandeleur. Donc, et avec leur forme ronde et leur couleur dorée, ça rappellerait le soleil qui, enfin, serait de retour après la longue nuit d'hiver, le moment où de l'année où les jours commencent à rallonger de plus en plus. Donc, aujourd'hui, par une tempête de neige comme ça, dites-vous que le printemps s'en vient. Dégustez des crêpes ce soir et pensez à la chandeleur, la présentation du Christ au Temple 40 jours après Noël. Voilà.
Et même si vous perdez des milliards à la bourse, il vous reste des crêpes pour vous consoler et à la maison. Louis Bouchard, merci beaucoup. Vous nous parliez donc de David contre Goliath à la bourse de New York autour de GameStop. À dans une semaine?
Comme toujours.
Allez, Louis.
Au revoir.
À venir sur les ondes de Radio-VM vers des exportations d'électricité québécoise aux États-Unis. On vous revient après la pause publicitaire.